quoi le plan ? Une effervescence d'avenir, d'égalité et de justice secoue la France et le monde. Jusqu'à présent, elle n'a pas su enclencher le frein d'urgence sur la voie des catastrophes planétaires et des dominations quotidiennes. Nous avons fait l'expérience de la force immense que nos luttes devront accumuler ensemble pour ébranler l'ordre existant. C'est quoi le plan ? Un podcast de la revue Contretemps propose de débattre de toutes nos stratégies pour bâtir un autre monde. Parfois, par chance, nous avons vu le monde d'après. Dans C'est quoi le plan ? Nous accueillons toutes les voix de celles et ceux qui en cherchent les chemins. Tous les guides de survie, les programmes, toutes les transitions, les planifications, tous les plans d'attaque nourrissent le débat stratégique. D'une façon ou d'une autre, les empires d'aujourd'hui seront les cendres de demain. Ils pourraient bien entraîner l'humanité dans leur chute. Alors, quel autre horizon nous reste-t-il ? Que faire pour l'atteindre ? Nous vous offrons une nouvelle réponse à chaque épisode de C'est quoi le plan ?
Bonjour à toutes et tous, je suis Théo Roumier, membre de la rédaction de Contretemps, et dans cet épisode de C'est quoi le plan, nous recevons Patrice Spadoni. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Alors avec toi, nous allons parler d'une organisation qui a existé de 1976 à 1991, dont tu as été membre et même membre fondateur, l'Union des travailleurs communistes libertaires, l'UTCL, et notamment de ses apports stratégiques. Alors cette UTCL, elle est issue de l'ORA, l'organisation révolutionnaire anarchiste, que tu as intégrée quand tu étais jeune lycéen à Paris au début des années 70. Même si l'ORA, elle existait déjà en tendance dans la fédération anarchiste, c'est en mai 68 qu'elle va prendre son autonomie et se révéler, on va dire. Elle a un journal qui s'appelle d'abord L'Insurgé, et qui va rapidement être remplacé par un autre titre, Front Libertaire, sous-titré, effet de période, des luttes de classe. Mais pas que de période. Elle mène des campagnes, elle a ses cortèges en manif, elle imprime des affiches, elle publie des brochures et des tracts, dont certains ont d'ailleurs pour titre générique La taupe libertaire. Donc là, je pense que la référence parlera à nos auditrices et auditeurs marxistes habituels. Et à son apogée, en 1973, elle peut compter sur près de 1000 membres actifs. Alors, peut-être un rapide aperçu de sa démarche. Dans une brochure de présentation qui est construite sous forme de dialogue, à la question « Comment vous situez-vous par rapport aux autres organisations anarchistes ?», l'ORA répond « Nous ne nous situons pas par rapport aux organisations anarchistes, mais par rapport au prolétariat. » Donc le ton est quand même donné. Par ailleurs, beaucoup de ses membres sont syndiqués à la CFDT, qui était quand même un syndicat autogestionnaire, il faut le rappeler à l'époque. C'est ton cas, très vite. Et pourtant, c'est précisément sur cette question de l'intervention syndicale et en entreprise que vous allez entrer en quelque sorte en dissidence, si on peut utiliser ce mot-là. Et en 1976, à un congrès qui se déroule à Orléans, tes camarades et toi, vous êtes exclus, vous êtes une quinzaine. Tu es le plus âgé du groupe d'ailleurs, à 22 ans. Et vous vous lancez dans une aventure qui va être celle de l'UTCL. Est-ce que quand même, pour l'époque, Patrice, pour te donner la parole, on ne peut pas considérer que c'est peut-être un peu audacieux ?
Ah ben c'était audacieux, c'était même presque un pari fou, puisque effectivement nous étions très très peu, il faut dire, pour compléter ton introduction, que effectivement dans l'organisation révolutionnaire anarchiste, il y avait beaucoup de camarades qui étaient syndiqués, mais en même temps, dans les dernières années, il y a eu une montée à l'intérieur de cette organisation d'une forme de pensée qu'on pourrait qualifier, ou qu'on qualifiait d'ailleurs, d'ultra-gauche, et qui remettait notamment en question l'engagement dans les organisations syndicales. Donc, il y avait véritablement une contradiction entre ce que nous étions, c'est-à-dire un petit groupe de camarades présents dans des entreprises telles que les PTT, telles que la SNCF, telles que les banques, telles que d'autres aussi, et qui avions donc une confrontation avec la réalité quotidienne du militantisme parmi des salariés, et puis cette tendance de plus en plus prononcée vers des formes de pensée antisyndicale, mais aussi une certaine fascination pour ce qui se développait de l'autre côté de la frontière, du côté italien, une certaine fascination pour l'autonomie ouvrière à l'italienne, qui était effectivement quelque chose de relativement considérable à l'époque, et qui fascinait aussi une bonne partie, je dirais même une majorité de l'organisation OERA. Donc notre rupture a été sans doute à la fois le produit d'un certain aventurisme qui nous caractérise, je dirais, quelque part, un certain goût du risque et de l'aventure, et puis en même temps, un peu aussi la pression des nécessités, c'est-à-dire que nous étions de plus en plus mal à l'aise dans cette organisation, et nous pensions vraiment que ces orientations ne pouvaient pas répondre aux besoins que nous avions en étendant le monde du travail.
Ouais, parce que par exemple, bon, moi j'ai quelques unes de Front Libertaire où tu pouvais avoir des unes qui, en effectivement 75-76, disaient contre la bourgeoisie, son État et ses syndicats, hein, qui avaient une sorte de d'identification des syndicats à une forme d'appareil d'État. Alors en même temps, vous étiez pas, pour le dire clairement, anarcho-syndicaliste. Votre choix d'intervention dans les syndicats, c'était un choix qui correspondait à une période où le syndicalisme, peut-être qu'il faut le rappeler aussi pour les personnes plus jeunes qui n'ont pas connu cette période-là, avait une autre allure que ce qu'il est aujourd'hui. Le nombre de syndiqués n'était pas exactement le même. On n'était pas très loin quand même de la grève générale de 68 et ses 10 millions de grévistes, même si on était quand même sur la fin de cette décennie-là, hein, qui a suivi 68. Mais néanmoins, quel rapport, quelle conception vous aviez, vous, par exemple, de l'action syndicale et de l'intervention syndicale? Parce que, juste pour te le mettre aussi en élément dans ta réponse, vous aviez aussi des formes d'intervention politique directe. Je pense, toi, tu étais au PTT, d'ailleurs, peut-être tu peux nous dire où tu étais, et puis vous aviez un groupe qui s'appelait le Postier Affranchi.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une intervention qui articulait plusieurs niveaux. Nous avions l'intervention spécifique, effectivement, et c'était même quelque chose que nous défendions à l'intérieur de l'organisation OERA. Ce n'était pas toujours évident, ça dépendait des camarades. Mais nous défendions cette idée qu'il fallait exprimer tout à fait directement, en direction de l'ensemble des salariés, nos points de vue, tant nos points de vue sur le quotidien, que nos points de vue sur le monde, sur la société, sur ce qui serait bon de changer, etc. Donc on avait effectivement lancé un petit journal qui était aussi un point de ralliement pour un certain nombre de militants, qui s'appelait Le Postier Affranchi. Moi j'étais à Paris Brune avec mon camarade Thierry Renard, et nous étions là confrontés à une expérience assez enthousiasmante quelque part, puisque c'était dénommé à l'époque le Renault des PTT. Cette entreprise a disparu depuis Paris Brune. C'était une grande entreprise de tri, en fait, qui triait une bonne partie du courrier à destination de l'Île-de-France. Et je pense me souvenir qu'il y avait à peu près 1800 salariés qui travaillaient dans l'entreprise. Donc c'était réparti en brigades, hein. Il y avait les brigades de jour, les brigades de nuit. On s'était un peu réparti les choses. Moi, j'étais dans une des deux brigades de nuit. Les brigades de nuit étaient plus importantes que les brigades de jour, parce que c'est là qu'on trie le flux du courrier qui est en fait distribué le lendemain. Moi, j'étais dans la brigade C, je crois, et Renard était dans la brigade D, ou l'inverse. De cette façon-là, nous avions la possibilité de pouvoir toucher, en fait, un nombre considérable de salariés qui partageaient le même travail que nous, la même situation que nous. Donc, on avait ce niveau qui était une expression spécifique. Il y avait un petit journal, donc, mais il y avait aussi des tracts. Si bien que nous diffusions d'une façon ouverte d'ailleurs, c'était une autre époque, hein, où la répression antisyndicale, mais même anti-militant, était plus faible qu'elle ne l'est devenue, et donc on pouvait se permettre, tout en étant salarié dans l'entreprise, de se mettre devant la porte de l'entreprise et de distribuer des tracts au nom d'abord de l'ORA, puis de l'Union des Travailleurs Libertaires. Des fois on le faisait même d'ailleurs un peu plus en catimini, on le faisait même à l'intérieur de l'entreprise, en déposant sur les casiers de tri des camarades pendant les pauses, des tracts qu'ils trouvaient quand ils rentraient de pause. Donc, il y avait cette présence vraiment importante pour nous d'expression spécifique d'un courant, et en même temps, il y avait la découverte de ce qu'était le syndicalisme depuis le terrain, c'est-à-dire depuis les sections de base, où là, on se trouve au côte à côte avec d'autres camarades qui étaient pour beaucoup dans la CFDT de l'époque. Il faut rappeler que la CFDT de l'époque n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'est devenu la CFDT par la suite. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, peut-être que la CFDT d'aujourd'hui a encore muté par rapport à la CFDT d'il y a quelques années. Donc c'est ça, on est dans un monde syndical qui évolue, de même que la CGT de l'époque n'est plus tout à fait la même que la CGT d'aujourd'hui. Donc on était, en tout cas pour notre part, confrontés à la gauche, ce qui s'appelait la gauche de la CFDT, qui était très présente dans les centres de tri PTT, les centres de tri notamment parisiens. Donc il y avait beaucoup de camarades qui étaient membres de ce qui s'appelait à l'époque le CERES, et qui était donc une tendance interne au Parti Socialiste. Il y avait aussi d'autres camarades, il y avait des camarades du PSU, il y avait quelques camarades de la Ligue communiste, mais pas si nombreux que cela. Et puis, donc, il y avait nous.
Il y avait vous. Et puis, justement, ce qui est intéressant quand tu parles du syndicalisme de l'époque, au-delà, c'est aussi une période où, dans ces années 70, l'incandescence de mai 68, c'est pas seulement des histoires de barricades, c'est effectivement une grève générale, mais au-delà même, c'est... on en avait parlé une fois, et c'était le fait que se dire qu'une autre société était possible, que le socialisme, avec toutes les nuances possibles, effectivement, de la création et de ce qui peut exister, mais que le socialisme était, en quelque sorte, ce qui allait succéder au capitalisme. Et puis, à échéance relativement brève, en fait, hein, avec y compris des leçons tirées de l'expérience chilienne de l'unité populaire. Il y avait quand même la révolution des œillets, la révolution portugaise en 74-75. Mais cette question-là, quand même, du socialisme, c'était aussi quelque chose qui intéressait. Globalement, je veux dire, les syndicats eux-mêmes parlaient de choses qui allaient au-delà de la seule question revendicative quotidienne. Hein. La CFDT, par exemple, était porteuse d'un projet socialiste autogestionnaire, comme elle l'appelait. La CGT, elle, les défendait. Bah, en gros, elle était encore très inféodée au Parti communiste, il faut le dire, et donc c'était le programme commun de gouvernement, etc. etc. Mais dans ces années-là, cette question de comment arriver au socialisme, et donc c'était quelque chose qui se discutait aussi dans les entreprises, en tout cas qui était présent dans la mentalité de l'ensemble des militants qui animaient les mobilisations dans les entreprises, mais aussi une partie des travailleurs et des travailleuses du pays.
Oui, tout à fait. Pour une part encore des militants, l'imminence de la révolution, ce n'était pas un doux rêve, c'était une des options possibles. Et moi, j'ai été frappé par le fait que le premier congrès, donc le congrès, je pense, ça, à l'époque, ça s'appelait l'USAT, d'ailleurs, le premier congrès des sections syndicales d'Île-de-France des centres de tri, donc un gros morceau des PTT, dans ce premier congrès, on parlait de la révolution. Il y avait des amendements, mais aussi des débats sur les conseils ouvriers, sur tout ça. Donc voilà, c'était cette époque-là, c'était ce syndicalisme-là. Mais le syndicalisme, c'est aussi la prise en compte des choses les plus quotidiennes. Et c'est ça aussi que nous avons appris en nous confrontant à cette expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolte sans ce travail. C'est un peu la double besogne dont parlaient les syndicalistes révolutionnaires au début du siècle précédent. Mais là, on l'avait vraiment d'une façon vivante. On y était dedans, on était confrontés vraiment à ça. Moi, je sais que quand je suis rentré à Paris-Brune, au tout début, j'étais quand même un petit peu encore assez séduit par les discours anti-syndicaux qui traînait dans l'aura, qui commençait à monter dans l'aura, et j'ai vite déchanté. Je me suis rendu compte que non, ça ne se passe pas comme ça. Si on veut aller vers une révolution, il faut aussi que les gens, les vrais gens, les monsieur et madame, tout le monde, se mettent dans le coup. Et que pour ça, l'organisation syndicale restait effectivement un outil précieux.
Et là, vous rencontrez en fait une tradition qui est celle du syndicalisme révolutionnaire, mais pas entendu dans le sens de... on prend la CGT, effectivement, des grands anciens, de Émile Pouget, de Victor Griffuelès, donc la CGT de 1906 et de la Charte d'Amiens, et on la transposerait telle qu'elle. Non, c'est une sorte de syndicalisme révolutionnaire, finalement, un peu vivant, que vous allez expérimenter, mais qui repose quand même sur ces questions-là. C'est-à-dire, par exemple, tu as cité donc, la formule de la double besogne qui est dans la Charte d'Amiens, mais il y avait une autre formule qui était d'Émile Pouget, qui était celle de la gymnastique révolutionnaire avec la grève. Finalement, c'était un peu votre idée aussi d'utiliser dans le sens utilitariste, hein, mais d'utiliser pour fabriquer de la conscience, pour fabriquer de la conscience de classe, pour fabriquer de l'énergie, du désir aussi, quelque part révolutionnaire, effectivement des luttes bien concrètes. Et scoltiner à ces luttes bien concrètes, c'était scoltiner au réel, et c'est, comme tu l'as dit, c'était bien à partir du réel qu'on construit une stratégie révolutionnaire. Mais cette histoire de grève, par exemple, vous aviez une stratégie très ancrée sur la question de la grève générale au début. Ça, c'est quelque chose qui était très présent aussi chez vous.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, une des expériences importantes, une des premières expériences qu'on a pu avoir, c'était celle de la grande grève des PTT de 1974. Grève qui, d'ailleurs, démarre pour la raison suivante. Les toilettes étaient bouchées au centre de tri de PLM. Et c'est parce que un imbécile de directeur a refusé de recevoir les délégués syndicaux qui se plaignaient un peu de ce désagrément. C'est pour cela que, d'abord, tous les centres de tri se sont embrasés en une nuit. Donc, et bien évidemment, il y avait un contexte qui le précédait. Il y avait une montée des colères, de toutes sortes de problèmes qui s'accumulaient, et notamment une montée de plus en plus grande de travailleurs précaires.
Les auxiliaires.
Enfin, moi, ouais. C'était mon cas. D'ailleurs, j'étais auxiliaire à l'époque, qui n'était pas titularisé. Donc, il y avait toutes sortes d'inquiétudes et de résistances dans le personnel. Mais enfin, ça nous a quand même appris quelque chose, c'est que ça explose. Et on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des mystères du monde social, c'est-à-dire ça fait partie des petites anecdotes que j'aime bien rappeler à des camarades qui, aujourd'hui, et je le comprends tout à fait, peinent dans leurs entreprises, où, ma foi, la grève n'arrive pas chaque jour, et qui pensent qu'en fait, le désespoir qu'ils connaissent en tant que, le temps d'aujourd'hui, est un peu l'horizon infini. Alors que non, le mouvement social, c'est vraiment quelque chose qui nous surprend, parfois pas bien, mais d'autres fois d'une façon tout à fait enthousiasmante. Et c'était le cas avec cette expérience de 1974, avec quand même 46 jours de grève, avec occupation, mais des vrais. Quand on parle de contre-pouvoir, là, c'était l'entreprise, par exemple, le centre de tri de Paris-Brune, qui était totalement vide. Tu te promenais du bas jusqu'en haut, de là où, juste avant, 1800 personnes travaillaient, et il n'y avait plus que des salariés qui ne travaillaient pas et qui occupaient le lieu. Donc, c'est quelque chose de très fort, en fait, comme expérience. Mais ça ne pouvait que conforter notre point de vue, à savoir qu'il est nécessaire aussi de participer aux organisations syndicales, mais aussi d'une façon critique. Parce que, pour revenir à ton introduction, c'est vrai qu'on pensait que c'était important d'être dans le monde syndical, mais qu'en même temps, on n'était pas dupes, qu'effectivement, nous étions très critiques par rapport aux différentes directions syndicales. Bon, pour la CFDT, c'était quelque chose de très ambigu. On était encore à une époque où, dans la CFDT, il y avait tous les signes de ce qui allait devenir plus tard le recentrage, mais qui... il y avait encore des ouvertures possibles. C'est-à-dire que nous pouvions, en tant que révolutionnaires, et si nous étions par ailleurs des syndicalistes corrects et honnêtes, nous pouvions à la fois apporter quelque chose à l'organisation syndicale et en même temps y être présents sans en être exclus. Ce qui n'était pas le cas de la CGT, par exemple, où les camarades, il y avait des camarades révolutionnaires dans la CGT, bien sûr, mais ils étaient dans une situation beaucoup plus délicate. Moi, je me souviens que nous avions lancé, parce que donc j'en viens un peu plus en détail à notre stratégie, notre idée, ça a été de rassembler ce que nous appelions une gauche syndicale, ce que l'on pourrait nommer, si on sort du cadre de l'entreprise, une gauche sociale. C'est-à-dire, on pensait qu'il y avait présence, notamment chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes. Il y avait dans les entreprises un certain nombre de travailleurs qui, justement, ne partageaient pas les orientations des directions syndicales et qui avaient un point de vue plus combatif, je dirais, mais aussi plus autogestionnaire, porteurs d'aspirations plus anti-autoritaires, plus libertaires, d'une certaine façon, que les directions des organisations, et on pensait qu'il fallait pouvoir contribuer à ce que ces gens se retrouvent ensemble. Et c'est pour ça qu'on avait constitué un collectif qui regroupait plusieurs dizaines de militants syndicaux, de la CGT comme de la CFDT, dans un groupement plus ou moins informel, mais enfin qu'on contribuait à structurer. Eh bien, les camarades qui étaient à la CGT, qui étaient par ailleurs en vue pour certains, se sont retrouvés tout simplement exclus de l'organisation.
Alors, c'est des exclusions. C'est vrai que, bon, la CGT, il y avait la main lourde, et pas que du point de vue des exclusions.
Hein. Oui, la main lourde, elle était parfois physiquement. Oui.
Voilà, elle était parfois physiquement lourde. Et là, il y avait une vraie différence dans le, on va dire, première moitié des années 70. Hein. Néanmoins, bon, vous allez expérimenter, vous allez en fait finalement occuper une position. Je dis vous, toi, tes camarades, donc UTCL, DPTT, mais vous aviez, il faut aussi le rappeler, hein, une présence UTCL, donc à la SNCF, puis à Air France, dans l'éducation, dans un certain nombre de secteurs, hein, même si l'UTCL n'a pas jamais été une très grande organisation. Néanmoins, c'était une organisation qui regroupait des salariés, des travailleurs, des travailleuses, et qui avait effectivement cette implication syndicale, et vous étiez présent dans un certain nombre de secteurs. Mais vous allez occuper en fait une position de gauche syndicale à un moment. C'est-à-dire que vous allez être au sein de ce qu'on a appelé par la suite l'opposition CFDT, une des composantes en réalité de cette opposition. Est-ce que, avant peut-être de revenir à un ou deux exemples concrets, tu peux, pareil hein, pour nos auditeurs et nos auditrices, revenir un peu sur comment vous vous situiez comme opposition CFDT, c'est-à-dire que vous défendiez les assemblées générales, bien sûr, hein, mais comment vous situez par rapport à d'autres oppositions, puisque tu l'as rappelé, il y avait des gens de la LCR, il y avait des gens, alors le PSU encore un peu, mais bon, voilà, il y avait d'autres militants qui composaient cette gauche syndicale. Comment vous vous situez, vous, dans cette gauche CFDT?
Avant de te répondre, je voudrais, effectivement, parce que j'ai parlé beaucoup des PTT en 1974, mais il y avait aussi des camarades dans la SNCF qui vivaient des situations qui n'étaient pas très éloignées. Et donc, au moment où nous, on défendait cette grève qui a éclaté, mais on en avait en fait parlé avant qu'elle éclate, celle de 1974, on était surpris comme tout le monde. Mais en même temps, on l'avait désiré et on avait exprimé ce désir avant au PTT, mais c'était aussi le cas de nos camarades de la SNCF. C'était aussi le cas de nos camarades des banques. C'est-à-dire qu'on avait cette idée de convergence des luttes et donc cette perspective d'une grève générale. Quand je parle de grève générale, je ne parle pas d'une grève générale d'une journée, je parle d'une grève générale qui s'étend sur le temps jusqu'à ce qu'elle obtienne des satisfactions au moins partielles sur ses revendications. Mmh. Et c'est pour ça qu'on formait un groupe, l'UTCL, pas simplement ancré, comme on pourrait l'entendre à travers ce que j'ai dit précédemment dans les PTT, mais qui avait vraiment une présence dans plusieurs secteurs en même temps. Et c'était toute la richesse du petit groupe que constituait l'UTCL, qui était effectivement d'abord une tendance à l'intérieur de l'ORA, puis qui s'est autonomisé et a formé d'abord un collectif pour une UTCL, puis une UTCL. Passons les différentes étapes, mais en tout cas, c'était une de nos richesses de pouvoir confronter des expériences diverses, en fait. Donc ça, c'était pour ce qui est de la grève générale, qui effectivement n'était pas pour nous simplement une référence, je dirais, idéologique. C'était un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que effectivement, on marchait dans les pas des syndicalistes révolutionnaires, on trouvait et retrouvait facilement des pensées, des mots d'ordre qui étaient ceux des syndicalistes révolutionnaires, et puis nous faisions partie, par notre formation même, on était en communication, si je puis dire, avec cet apport historique, mais en même temps, on ne le faisait pas dans nos entreprises en répétant mécaniquement des sortes de fétiches, de mots d'ordre fétiches. Non, on était vraiment, c'était vraiment à la fois l'émanation quasi spontanée de ce que nous vivions au jour le jour. Donc ça, c'était notre, enfin la perspective de la grève générale telle que nous la vivions. Et puis, il y avait eu mai 68 très peu avant aussi. Donc, c'était pas simplement, ça n'était pas une utopie. C'était quelque chose qui avait été déjà expérimenté très tôt avant. Et alors, pour ce qui est des gauches syndicales, eh ben oui, elles étaient diverses. D'une part, il y avait des militants de toutes sortes d'obédience, comme tu l'as rappelé. Et puis, il y avait aussi un grand nombre de camarades, la majorité, qui étaient des militants syndicalistes et uniquement, en tout cas pour ce qui est des appartenances siglées, uniquement des militants de l'organisation syndicale. Ça faisait quand même la majorité. Et c'était donc avec tous ces camarades que nous pensions multiplier les contacts, des formes d'organisation comme celle du comité dont je t'ai parlé à Paris-Brune, mais il pouvait y en avoir d'autres. Nous avancions comme ça, et puis c'était assez facile de se voir, de se retrouver. Alors c'est vrai que parfois on était invité à des réunions un peu secrètes par tel ou tel autre groupe qui aimait beaucoup travailler, je dirais, en fraction. Quoi. C'était l'idée de la fraction, c'est-à-dire pratiquement une logique militaire où on se retrouve dans l'organisation, mais pour avancer ses pions avec des stratèges qui sont là pour nous expliquer un peu comment. Donc, ça, on a un peu discuté avec des camarades. À l'époque, il y avait aussi un autre groupe qui s'appelait l'OCT, qui a disparu depuis, qui était absorbé, je pense, par la mouvance ligue communiste à un moment, mais qui était avec des camarades de grande valeur, par ailleurs, hein, aussi. Donc, les camarades de la Ligue, voilà. C'est vrai qu'il y a toute une palette dans l'extrême-gauche et qu'il y a des couleurs vers lesquelles on allait plus facilement que vers d'autres. Hein. C'est clair qu'avec les camarades, par exemple, lambertistes, donc des trotskistes d'un autre style, les contacts étaient pratiquement impossibles. Mmh. Dans l'entreprise où j'étais ensuite, dans le bureau de poste où j'étais ensuite, qui était Paris 17, FO était tenu par un lambertiste. Mais c'était indétectable. Il fallait le savoir. C'est-à-dire que moi, quand je le connaissais, quand je l'entendais, avant d'avoir appris son appartenance, je pensais plutôt qu'il devait être un militant gaulliste.
Ah oui, d'accord.
Avec des propos parfois assez gênants. Voilà. Donc avec ses camarades, les relations n'étaient pas particulièrement chaudes. Et avec les camarades de lutte ouvrière, bien qu'on pourrait penser, on y viendra sans doute après, on parlera de l'ouvriérisme, tant qu'on peut penser, on pourrait penser que nous aurions pu nous retrouver ensemble autour de ça. Mais en fait, l'ouvriérisme, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Et à vrai dire, si nous étions des ouvriéristes, nous l'étions d'une toute autre manière. Et donc, avec les camarades de Hello, bah, ma foi, d'abord, ils préféraient être dans la CGT, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination pour la structure. Or, nous n'avons jamais été fascinés par les structures. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que les structures, on les faisait bouger, les lignes, on les fait bouger, parce que c'est la dynamique des luttes, c'est la présence réelle, physique, humaine, c'est tout ça qui fait déplacer les lignes, les structures, qui fait bouger les organisations. C'est pour ça qu'on avait choisi d'être dans la CFDT, parce qu'il y avait un espace d'expression, d'existence, alors que dans la CGT, nous n'aurions pas trouvé cet espace-là. Puis nous étions des libertaires. C'est-à-dire qu'on n'avait pas notre langue dans notre poche. Quand on pensait quelque chose, on le disait, en Assemblée Générale y compris. Donc, pour notre part, tout en étant à la CFDT, il nous arrivait en Assemblée Générale de prendre la parole et d'être en contradiction, y compris avec les camarades délégués de la CFDT. On pouvait rester. Tandis que si on avait été à la CGT, on n'aurait pas pu rester. Et donc, dans la logique de l'entrisme, là, ça devient de l'entrisme d'autres camarades, eh bien, s'ils étaient dans leur organisation, il fallait qu'ils ferment leur gueule. Mmh. Et ça, pour nous, c'était impossible. C'était impossible. Nous étions tout à fait partisans de la liberté la plus complète d'expression dans l'enceinte, justement, de ce qui nous semblait devoir devenir l'enceinte de la démocratie, donc l'Assemblée générale de tous les travailleurs, quand tous les travailleurs sont convoqués ensemble, eh bien, c'était impossible de taire, y compris nos critiques. Donc, c'est pour ça qu'on n'était pas en accord avec de la même manière avec tous les militants qui étaient dans les entreprises, en même temps que nous. Et que nous trouvions donc, de fait, plus en accord avec les camarades de la Ligue communiste, qui étaient plus ouverts, qui étaient des trotskistes, peut-être déjà se posant quelques questions sur leur trotskisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui étaient en tout cas plus sensibles à ce qui se passait autour d'eux, un peu moins peut-être, piégés par un carcan idéologique. Même si, on y viendra peut-être un peu plus tard, ce carcan existait toujours.
Un peu plus ouvert aux questions d'auto-organisation des luttes. Ça, c'était quand même quelque chose qui caractérisait les militants de la LCR. Ils étaient pour les âgés. Ils défendaient la question de la démocratie syndicale. Et ça, par exemple, c'était une manière aussi que vous aviez de faire opposition. Par ailleurs, ils pouvaient être ambigus. Ils pouvaient être tentés aussi par un phénomène un peu où on va se réunir, on va défendre tous ensemble le même amendement au Congrès. Bon, voilà, des pratiques. Vous, votre manière d'être en opposition syndicale, c'était finalement de dire ce que vous aviez à dire. Voilà, effectivement, tu l'as dit. Mais pas dans une logique de fraction, ou en jouant le jeu de la démocratie syndicale et en compris en défendant la démocratie syndicale. Là, c'est par exemple ce que tu disais dans la CFDT. Mais quitte à rentrer en contradiction des fois avec des logiques d'appareil. Je voulais, si ça te dit, qu'on donne un petit exemple un peu concret. Moi, c'était quelque chose qui m'avait assez intéressé. C'était ce que vous aviez fait autour du 1er mai 1980 sur l'histoire de la marche pour l'unité. On était dans une période un peu compliquée. Il y avait une division syndicale importante. L'union de la gauche avait été rompue en 77, il y avait l'échec des législatives de 78, il n'y avait pas eu d'arrivée de la gauche au pouvoir, et il y avait une très forte division syndicale CGT-CFDT, y compris des divisions syndicales alimentées des deux côtés, des directions CGT comme CFDT. Parce que ce 1er 1980, il était prévu qu'il n'y ait pas de cortège commun. Et vous prenez un appel, que vous lancez des postaux de Paris, donc, mais pas vous que UTCL, tu vas peut-être y revenir, mais où vous prenez cette responsabilité de dire, ben non, nous on est pour l'unité. Alors ça rejoint aussi le débat sur la grève générale, est-ce qu'on peut faire la grève générale sans unité syndicale par exemple, ou des choses comme ça, mais en tout cas vous prenez de cette question-là de l'unité, et vous en faites une forme d'intervention pour obtenir un 1er mai unitaire. Tu te souviens de cette histoire-là
où, oui, je m'en souviens parfaitement, mais alors... D'abord, il faut dire qu'en quelques années, les choses avaient bougé.
Ouais.
C'est-à-dire que quand nous sommes rentrés à peu près dans les mêmes années, par exemple, Bernard et moi, on est rentrés à peu près à quelques mois après, autour de 1973, dans les PTT, d'autres, c'était pareil, c'est une génération aussi en même temps qui se retrouve ensemble. Ça, c'est les années 70. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, ce qui a changé, c'est qu'on était déjà dans d'autres positions. C'est-à-dire qu'on avait fait nos preuves, tout simplement. Et donc, un certain nombre de camarades, ceux que nous étions, et puis les camarades que nous avions gagnés à notre combat, étaient en position pour beaucoup de responsabilités dans les organisations. Je ne me souviens plus en détail pour l'année même dont il s'agit, si Martine Degnaud, par exemple, qui est une camarade de l'UTCL, était déjà la secrétaire de la section, du syndicat, pardon, des postaux ou pas, je ne m'en souviens plus. Mais enfin, en tout cas, nous étions en position, disons, nous étions un des pôles qui comptait dans les oppositions, voire plus que dans les oppositions. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'endroits, nous n'étions plus des oppositionnels, nous étions pratiquement les animateurs de sections syndicales entières. Moi, j'étais secrétaire à l'époque de la CFDT de Paris 17, qui était la plus grosse section des postaux de Paris. Et voilà, on était en position importante, en capacité de faire bouger des choses. Alors, effectivement, il y a eu cet épisode qui t'a beaucoup marqué, je l'ai bien remarqué, qui pour nous a été un épisode parmi d'autres, à vrai dire. C'est vrai que je pense que ce sont nos camarades, des camarades de la Ligue par ailleurs, qui en ont eu l'idée. Nous avons emboîté le pas sans problème. Je sais qu'il y avait des divergences à l'intérieur de la Ligue, mais je n'ai jamais vraiment compris le pourquoi du comment. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, nous avons joué le jeu. Et c'est vrai que c'était assez sympa de se retrouver à faire une manifestation qui était en fait une manif passerelle. C'est-à-dire qui était entre les deux, avec des camarades. On avait fait exprès de venir avec nos tenues de facteurs, même si nous étions, nous, en tout cas les libertaires, plutôt réticent quant au port de l'uniforme. En tout cas, on le remettait en cause pour ce qui était de l'uniforme complet, au moins un jean et pas un pantalon. Enfin, tout ça, ça paraît drôle, mais ce sont les petits conflits qu'on a pu avoir avec nos camarades de la Ligue. Hein, qui... Et donc, on a participé à ça. Et donc, pour cette manifestation passerelle, bien sûr, on venait habillé en facteur pour que ça soit bien visible, en fait, que ça émanait de secteurs existants, quoi, du monde du travail. C'était pas uniquement, c'était pas une manif de gauchistes qui ferait mumuse en faisant semblant d'être des salariés. Mais bon, je pense que ça a contribué, effectivement, comme d'autres choses. Mais c'était pas pour nous le plus important. Le plus important, c'est quand même ce qu'on réussissait à faire et à faire avancer dans chaque entreprise. Et pas simplement là, dans une affirmation, à un moment donné, d'un souci d'unité qui est important. Et comprenons-nous bien autour de la question de l'unité, parce que je pense que ça renvoie aussi à des questions stratégiques, voire à des questions plus profondes encore, la question de l'unité. La question de l'unité, pour nous, est très importante. Mais il s'agit d'abord de l'unité des travailleurs. Et pas de l'unité des structures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir unité des structures en dehors des travailleurs ou dans leur indifférence. Il peut y avoir l'unité des structures contre la démocratie, par exemple. Combien à l'époque d'intersyndicales disaient des choses qui se seraient passées autrement s'il y avait eu autogestion des luttes. Donc l'unité en soi, pour nous, n'a jamais été quelque chose qu'on fétichisait. L'unité des structures, j'entends.
Hein. Oui, c'était défendre l'unité de la classe. Enfin, dans un sens d'intervention et aussi de construction d'un socialisme par en bas, quoi. C'était aussi cette démarche-là. Si on peut peut-être faire le lien sur la manière dont vous envisagiez aussi, vous, votre communisme libertaire, par exemple, à ce moment-là, justement au moment où, en fait, où vous vous fondez, quoi, hein, fin des années 70, début des années 80, vous allez vous positionner, en réalité, comme un courant original, qui veut construire un socialisme autogestionnaire, démocratique, etc.
Oui, tout à fait. Oui, il y a un éclairage réciproque, on peut dire, entre notre expérience concrète et notre projet de société, notre volonté de mettre au chaud, de contribuer à ce que la société capitaliste soit renversée et qu'un autre monde se construise. Et donc, pour nous, la question de l'autogestion de la société future est complètement liée à notre combat pour de l'autogestion au quotidien. C'était pour nous le premier pas. Il ne peut pas y avoir une avancée vers la construction d'une autre société, en tout cas telle qu'on l'a rêvée et l'a désirée, s'il n'y a pas au préalable une vague d'autogestion réelle avec les salariés. Et c'est en ceci aussi qu'il y a, puisqu'on parlait aussi des divergences, il faut aussi s'amuser à voir un peu quelles sont les divergences entre les différents groupes d'extrême-gauche, même si maintenant, pour des auditeurs d'aujourd'hui, un certain nombre de ces débats peuvent apparaître un peu étranges, un peu dépassés. Mais enfin, en même temps, ça a quand même du sens. Alors, l'intérêt de lutte ouvrière, c'est au moins de présenter un modèle, je ne dirais pas parfait, mais enfin un modèle bien, bien, bien rigide et bien
délimité.
Et bien délimité de ce que peut être le trotskisme. Et donc, il est clair, par exemple, que quand on parle d'auto-organisation, pour ce type de courant, mais aussi pour un certain nombre de militants de la Ligue communiste, c'était un peu pareil, l'important, c'est la structure. L'important, c'est la structure pourquoi ? Quand je dis la structure, c'est par exemple de privilégier à l'Assemblée générale décisionnelle, réellement décisionnel, espace de débat, de conflit, de contradiction, machin, et qui finit par prendre des décisions, de lui préférer, quand même, l'élection d'un comité de grève, par exemple, quand il y a grève, ou de son équivalent quand il n'y a pas encore grève. Enfin, ce désir de d'abord construire de la structure qui ressemble effectivement à de l'auto-organisation, mais c'est de l'organisation, mais ce n'est pas vraiment de l'auto. C'est-à-dire qu'il y a derrière aussi cette idée que, parmi ces élus, il y aurait d'abord des camarades du parti. Donc, en fait, c'est aussi de désirer construire des structures dans un monde où le syndicalisme est dominé par la social-démocratie ou par les staliniens à l'époque. C'est de construire d'autres structures dans lesquelles le parti révolutionnaire, le petit parti révolutionnaire, aura beaucoup plus d'écho, de moyens d'existence, etc. Donc, il y a un même mot, l'auto-organisation, mais en fait, il y a des logiques vivantes, des logiques réelles qui sont presque antinomiques.
Pour vous, par exemple, aussi, l'UTCL, ça voulait dire aussi, peut-être pour t'amener sur un autre aspect de ce que vous aviez fait dans vos premières années, bah justement, apporter un soutien à des militants et des militantes qui essayaient de faire vivre une forme d'organisation ouvrière ou qui soit distincte de celle que le pouvoir en place voulait faire exister. Je parle dans les pays de l'Est, et c'était le soutien aux syndicalistes dissidents de l'Est. Ça a été quelque chose quand même d'assez important pour vous, donc si tu peux en dire quelques mots quand même aussi.
Oui, c'était important. Alors, on était dans une époque où le bloc soviétique, effectivement, se fissurait, mais restait quand même, pour une partie de la gauche, un modèle. C'est-à-dire, ça n'était pas tout à fait satisfaisant, je pense qu'y compris une partie des militants du Parti communiste en avait bien conscience. Mais en même temps, ça restait un modèle. Et même pour nos camarades trotskistes. C'était quelque part aussi un modèle, c'est-à-dire les fondements étaient justes, c'était en gros au niveau superstructurel pratiquement qu'il y a eu des errances, mais enfin la base était quand même socialiste, d'une certaine façon. Donc savoir se positionner face à ces pays, c'était important, et ça l'était pour nous aussi, pas simplement en se positionnant d'une manière théorique, par la critique de ce que nous appelions un capitalisme bureaucratique d'État. Et déjà là, il y avait des conflits très forts, parce que qui dit capitalisme d'État implique exploitation des travailleurs, enfin implique un certain type de rapport de domination, de rapport de pouvoir, mais aussi de rapport de classe, qui était pratiquement, c'était quelque chose de presque impossible à entendre pour des militants, y compris des militants trotskistes de la Ligue communiste à l'époque. Donc, nous avions ce volet, on peut dire, de critique du régime, mais on avait besoin de plus. Et ce plus, en fait, il nous était offert par ce qui se passait réellement dans les pays de l'Est. Solidarnosc, c'est quand même... Alors après, on peut toujours ergoter sur ce qui est devenu Solidarnosc, ce qui est devenu Baleza, etc., etc. Mais enfin, à l'époque, c'était quand même une énorme force émanant de la base ouvrière qui se structurait en organisation syndicale et qui s'opposait au régime en place. Donc, c'est pas rien. Et puis, il y avait cet exemple-là et d'autres d'une façon plus ténue, mais aussi importante. C'est pour ça qu'on a soutenu des syndicalistes de Russie, notamment.
Du SMOT.
C'était des toutes petites forces. Mais en même temps, c'était des forces héroïques, parce que faire du syndicalisme à l'époque, c'est peut-être aussi d'ailleurs très difficile de faire du syndicalisme aujourd'hui en Russie. Et à l'époque, ça l'était extrêmement. Donc c'était pas rien de les soutenir. Et donc, cette idée de mettre ensemble, on peut dire, la réflexion historique, la réflexion de fond sur quel socialisme nous voulons, et ensemble avec le soutien concret des forces syndicales, des forces ouvrières qui émergeaient dans les pays de l'Est, ça nous a conduit à faire en 1981 quelque chose d'assez important. Hein. Donc c'était un colloque historique sur deux jours qui s'appelait...
De Kronstadt à Gdansk, 60 ans de résistance au capitalisme d'État.
Voilà, c'est dit, l'historien a parlé, heureusement, il est là, et on voit le caractère programmatique en même temps qu'il pouvait y avoir dans cet intitulé, qui partait de Kronstadt pour aller jusqu'à aujourd'hui, et qui mettait effectivement tout un tas de courants de la gauche révolutionnaire en difficulté, parce que s'exprimer là, grâce, il faut bien le dire, au fait que nous avions aussi Daniel Guérin parmi nos militants, camarades de l'UTCL, ça nous a permis de mettre ensemble toutes sortes de gens, depuis Ferraud jusqu'à Castoriadis, des syndicalistes donc de Russie.
Des vétérans aussi, Marcel Bodi, par exemple,
Bodi,
en Tchiliga.
Exactement. Mais c'était aussi ça, pour nous, l'existence d'un courant politique révolutionnaire libertaire, c'était aussi apporter un espace de réflexion qu'on partage avec d'autres, avec qui voulaient venir, etc. Donc c'était d'être à l'initiative, y compris d'une façon un peu créative, d'événements qui permettent de faire avancer les idées, de desserrer un peu l'étau de ce qui continue à peser très fort sur la gauche, et notamment la gauche révolutionnaire, à cette époque-là en France.
Alors c'est un étau qui va, en réalité, pour avancer un petit peu, 1980, c'est pas que votre colloque, c'est aussi l'arrivée au pouvoir, mine de rien, du candidat Mitterrand qui était soutenu, et puis surtout c'était la gauche au pouvoir, etc. Bon, vous n'y avez pas spécialement, en tout cas vous n'y avez pas mis un espoir énorme. Il faut quand même signaler que vous avez, par exemple, appelé à voter aux législatives derrière en 80, ce qui est Bon, un choix un peu hétérodoxe d'un point de vue libertaire, mais encore une fois, sans non plus espoir, en gros, en disant il faut peut-être jouer cette carte-là à ce moment-là, parce que tactiquement, ça se joue, mais on parle plutôt là de choix tactiques que réellement stratégiques. En tout cas, 80, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, et très vite, on va déchanter, et ça va se ressentir et assez durement dans la première moitié des années 80, et ce qui est assez... moi, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans l'histoire de l'UTCL, c'est que vous êtes une petite organisation. Vous êtes présent, là on l'a un peu vu, dans les gauches syndicales, vous prenez des initiatives, vous existez quand même en tant qu'organisation. Alors, on n'a pas cité le journal qui était tout un programme, hein, mais qui s'appelait quand même « Tout le pouvoir aux travailleurs ». Enfin, vous aviez quand même une intervention en propre, etc. Et arrive donc cette première moitié des années 80 qui sont quand même, qui sont des années quand même difficiles très vite, hein, à partir du moment où il y a le tournant de la rigueur en 82-83. Félix Guattari utilisait une expression que je trouve assez jolie, il parlait des années d'hiver pour parler de cette première moitié des années 80. Alors comment vous les traversez, vous, l'UTCL, ces années-là?
Oui, effectivement, ce sont des années assez difficiles à vivre, parce que, pour le coup, tout l'élan de mai 68 était épuisé, plus ou moins. Il y avait encore des militants qui avaient été habités par cette expérience et qui étaient toujours là. Mais le grand mouvement d'espoir qui avait été celui de mai 68 était un peu exténué à l'époque. Les luttes sociales étaient effectivement beaucoup entravées, y compris par la présence de la gauche au pouvoir. C'est-à-dire que c'était difficile pour certains de s'opposer à un gouvernement qui était quand même de notre côté, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'illusions.
Il y avait des ministres communistes, hein, voilà. Le ministre des Transports, par exemple.
Oui, était communiste, oui, tout à fait. Donc, c'était une époque difficile. La chute du mur n'était pas encore, je crois, c'était pas encore le...
Non, c'est plus tard, 89.
Il y avait donc ces effritements, mais enfin encore le poids de ce modèle-là. Donc ce n'était pas une époque facile, et ce n'était pas une époque facile pour nous qui étions, je ne dirais pas contre tout le monde, mais enfin qui avions une position alternative par rapport à tous ces courants, même si, je pense, nous exprimions des sentiments et un point de vue qui étaient beaucoup plus largement partagés que simplement dans nos rangs ou nos proches sympathisants. Je pense que, quelque part, on a exprimé des choses que nous avons retrouvées ensuite, quand il y a eu la création des Sud, on s'est retrouvés en très bonne sympathie avec beaucoup de camarades. On exprimait réellement un courant de pensée, on peut dire, à l'époque.
Ouais, parce que vous faites évoluer, par exemple, à ce moment-là, donc le fameux titre « Tout le pouvoir aux travailleurs », il va être abandonné. Vous allez changer le nom de votre journal, qui va être « Lutter », avec un point d'exclamation. Je pense que ça correspondait à la volonté que ça existe vraiment, parce que, bon, tu passes dessus, mais voilà, première année 80, c'est des périodes où les luttes en entreprise, c'est dur. On sent que 80, l'élection de Mitterrand, elle a d'une certaine manière clôturé en réalité le cycle qui avait été commencé en 68 et même l'exercice en réalité du pouvoir de la gauche dans ces deux premières années, il a même épuisé, quoi. C'est-à-dire que la rupture anticapitaliste, manifestement, elle passait pas par là, quoi. Donc il y a forcément une forme de désespoir. Il y a quand même une crise économique très forte qui frappe, hein. Il y a la sidérurgie Lorraine en 79, il y a quand même... Vous allez donc traverser ces... zone de turbulence un peu du début des années 80, vous allez quand même maintenir une activité, ça c'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas disparaître, parce qu'il y a des courants qui s'effritent, quoi, hein, qui peinent à traverser. Moi, j'ai l'impression quand même que le fait d'être dans le syndicalisme, c'était quelque chose qui vous a permis de tenir, parce que vous aviez ce contact réel, et surtout d'être là au moment où, à la deuxième moitié des années 80, ça repart, on va dire, hein, ça repart. Par ailleurs, ça repart pas forcément directement du côté du travail, ça va être la marche pour l'égalité de 1983, et puis la solidarité aussi avec le peuple kanak. Je dis ça parce que c'est important, on est aussi dans une période où la question de l'indépendance kanak, elle est reposée fortement là, aujourd'hui, et vous avez été de ces courants-là qui ont fait le choix de soutenir l'indépendance kanak, et puis d'arriver sur aussi le cycle de grève de 1986-1988. Hein. Donc finalement, il y a une forme d'accélération à partir de 83-84 dans lequel vous êtes pris et vous existiez encore, et tant mieux, vous n'aviez pas disparu et ça vous a permis de poser des jalons. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment-là, là, justement, 83-84, 86-88, là, qui va de soutien à l'indépendance kanak, marche pour l'égalité. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans tout ça, l'UTCL?
Oui, c'est-à-dire que on pensait que l'entreprise était un terrain essentiel pour la lutte, pour changer les choses dans la société. Donc ça faisait partie de notre identité, pratiquement, l'Union des travailleurs communistes libertaires. Mais en même temps, nous n'avons jamais pensé que les revendications salariale, syndicale, classique, traditionnelle, c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait porter. Donc on était tout à fait conscient qu'il y avait d'autres luttes qui devaient se croiser avec celle-là, qui devaient parfois complètement converger, former une seule lutte, mais et d'autres fois devaient exister à côté des luttes traditionnelles en entreprise. C'est pour ça qu'effectivement, comme on l'a rappelé, nous avons soutenu les syndicalistes, notamment russes. C'est comme ça, comme tu l'as rappelé, que nous étions en soutien au peuple kanak. C'est comme ça aussi que nous avons beaucoup soutenu la première marche, celle de 83. Puis, c'est suite, parce qu'il y a eu, après 83, il y a eu ce qui s'appelait Convergence 84, qui était une marche en mobilette, si je me souviens bien, et on participait à la fois à l'animation et à la coordination au niveau central, et aussi, nous avions quelques jeunes camarades qui étaient sur les mobilettes montant sur Paris. Donc, on était là-dedans absolument impliqué dans ce type de lutte qui impliquait des camarades qui n'intervenaient pas nécessairement en entreprise. Voilà, donc on était avec ça. Donc nous avions aussi des contacts de plus en plus importants avec des jeunes étudiantes et étudiants. On était aussi présents dans les luttes des femmes, et notamment à l'époque, c'était le droit à l'avortement, à la contraception, qui était une des thématiques importantes des combats de l'époque, et on en était aussi. Donc, la convergence des luttes, c'était ça aussi, pour nous, et c'était très important dans toutes ces années-là. Et ça aussi, ça contribuait à construire un projet, puisque ce que nous n'avons pas tout à fait dit, c'est que dans ces années-là, on a lancé dans notre organisation toute une phase de réflexion et d'élaboration qui nous a conduit à adopter le projet communiste libertaire en 86 sauf erreur, mais qui était le produit en fait de réflexions qui dataient de toutes ces années 80, qui se sont accumulées et qui ont été portées dans un petit bouquin.
Et ce projet, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il prend appui, tu l'as dit là, hein, sur toutes ces luttes-là que vous aviez, c'est pas seulement vous les aviez accompagnées de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, hein, il y avait des jeunes militants et militantes, notamment de l'UTCL par exemple, chez les rouleurs et rouleuses de 84. Le soutien à l'indépendance kanak, c'était pas un soutien de position, c'est-à-dire que vous étiez dans les manifs, vous étiez à l'organisation des meetings de soutien en France. Quand Jean-Marie Djibaou vient en France, il rencontre Daniel Guérin, donc tu l'as aussi dit, qui était militant de l'UTCL, mine de rien, voilà. Vous organisez, je crois, le service d'ordre d'ailleurs de Jean-Marie Djibaou, donc vous avez tout ça. Et vous avez aussi le cycle de lutte des coordinations, comme on a appelé ça, de grévistes, qui est aussi le retour, un peu d'une certaine manière, par la fenêtre, je ne sais pas, mais en tout cas, le retour de l'autogestion des luttes dans toute une série de grèves, hein, cheminotes, Air France, etc. Et ça, c'est aussi... En fait, tous ces combats-là des années 80, ça nourrit effectivement votre réflexion politique sur, d'une part, la place du syndicalisme. On va voir émerger des termes comme celui du syndicalisme indépendant, du syndicalisme alternatif, puisqu'il y a des premières exclusions hein, à la CFDT, quand même. Enfin, il y en avait déjà eu avant, mais disons que là, il y a des exclusions qui donnent naissance à des syndicats qui se maintiennent. Et puis, ça questionne aussi... et si tu peux arriver à faire le lien entre les deux, ou en tout cas voir s'il y a un lien entre les deux, tout simplement, votre conception même de la rupture, quoi, votre stratégie révolutionnaire autour de la conception des contre-pouvoirs, notamment que vous apportez beaucoup dans votre projet de société communiste libertaire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs champs dont il faut tenir compte. L'un d'entre eux, c'est que le capitalisme était en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on était un peu à la fin d'un cycle et au début d'un autre. On était dans une phase... Attention, je ne dis pas que le capitalisme, ce sont 10 types autour d'une table avec des chapeaux haute forme et qui élaborent la bonne stratégie capitaliste. Mais enfin, que ça soit d'une façon formelle ou informelle, il y avait l'élaboration d'un nouveau projet de société pour le capitalisme, d'une nouvelle conception, y compris de la lutte des classes, c'est-à-dire comment réagir face au monde syndical, au monde associatif, etc. Il y avait tout ça qui commençait, on était dans une époque charnière. Et pour nous, ça rendait d'autant plus nécessaire la nécessité pour les mouvements sociaux, quels qu'ils soient, d'avoir leur propre élaboration d'un nouveau projet de société. Donc, il y avait ça. Il y avait notre propre expérience en tant que courant révolutionnaire qui était de sentir des failles et des besoins dans ce que nous articulions, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas suffire dans les années 80 de rappeler qu'en 36, même si c'est important, qu'en 36, il y a eu la dernière révolution importante en Europe, c'est quand même 36 en Espagne. Révolution importante, la révolution qui couvre des millions de personnes qui s'y associent. Et en plus, avec un caractère autogestionnaire évident. Donc, c'est important de le dire, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ça ne peut pas suffire. Et puis, il y a eu, y compris, des limites dans cette époque, et les anarcho-syndicalistes qui étaient à la tête de ce mouvement révolutionnaire en Espagne, eux-mêmes ont buté sur un certain nombre de limites, y compris de limites théoriques, de limites stratégiques. Et bien sûr, les choses ne sont pas simples. Et donc, il y avait tout ça qui nous interrogeait en tant que libertaires, c'est-à-dire trouver, élaborer un nouveau projet libertaire nous semblait essentiel. Et puis, il y avait aussi, donc on en a parlé assez longuement aujourd'hui, mais il y avait cette crise, en fait, de plus en plus importante du modèle léniniste, et encore plus, et dépassant donc nos simples rangs, la nécessité d'élaborer un projet révolutionnaire. Alors, le problème du projet révolutionnaire, c'est que c'est effectivement aussi penser un peu à la société que nous voulons construire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire un autre monde est possible, d'accord, un autre monde est possible, c'est sympa, mais quel autre monde? Donc, il y a forcément nécessité de fixer quelques axes à ce monde. Il ne suffit pas de se limiter, il ne faut pas qu'on se limite à quelques slogans, quelques jolis mots comme autogestion, etc. Il faut aller un peu au-delà de tout ça. Donc, il y a ce besoin de donner un sens, il y a un sens contemporain à ce profilage d'une société autre. Et puis, il y a aussi le problème, tout simplement, de comment on y va. C'était bien beau de dire la stratégie des bolcheviks a échoué et elle a donné quelque chose de terrible. D'ailleurs, elle a donné des sociétés qui sont certainement... L'existence même des pays de l'Est, ce qu'est devenu le socialisme réel, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire du non-socialisme ou de l'antithèse même du socialisme, ça a eu une incidence terrible sur la pensée générale. C'est pour ça aussi qu'il est extrêmement difficile, et même encore aujourd'hui, extrêmement difficile de poser une alternative au capitalisme. Parce que l'idée du socialisme a été défigurée par cette expérience-là. Mais alors, donc, du coup, justement, comment trouver un autre chemin? C'est vrai qu'au début, nous appelions beaucoup la grève générale. Et effectivement, la grève générale, c'est quelque chose qui peut se jouer et qui peut être important, mais ça ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que la grève générale, il peut y en avoir, et puis on arrive à des revendications, et puis après on arrive à la satisfaction des revendications, et puis on rentre au boulot, et puis voilà. Donc, le problème, c'est comment élaborer une stratégie qui prenne appui, parce que nous sommes pour la construction d'une société autogestionnaire, donc d'une société où les gens vont pouvoir réellement participer non seulement à leur quotidien, mais aux grandes orientations d'une société. Comment le faire à partir de nos expériences les plus quotidiennes et comment, depuis là, construire une stratégie qui ait de la cohérence, qui puisse aller vers une rupture. C'est pour ça qu'on a, dès les années 80, commencé à parler de contre-pouvoir. Pas de contre-pouvoir en termes de structure figée. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut créer nos propres institutions face aux autres, etc., d'une manière un peu mécanique. Il s'agit de donner du sens aux dynamiques, en fait. Donc, les dynamiques d'Assemblée Générale, c'est quelque chose dont nous étions un des courants les plus porteurs. L'Assemblée Générale décisionnelle, dans les entreprises ou ailleurs, c'était quelque chose d'important et ce n'était pas quelque chose d'évident. Les générations d'aujourd'hui ont un peu l'impression que le fait qu'on demande leur avis aux salariés, par exemple, en cas d'une grève, c'est quelque chose qui est acquis. Ça n'était pas du tout dans les années 70. Dans les années 70, à part quelques exemples, quelques contre-exemples, par exemple les luttes de l'IP hein, ou d'autres, en général, il y avait les délégués syndicaux qui arrivaient, qui donnaient le « là », et puis on avait le droit de voter pour. En gros, c'était ça la non-autogestion des luttes. Et donc, se battre pour l'autogestion des luttes, c'était quelque chose de presque révolutionnaire dans ces années-là. Et je pense que quelque part, nous avons contribué, notre courant et d'autres bien sûr, mais comme je le disais, je pense que nous avons été l'expression d'aspirations qui nous dépassaient largement. Nous avons contribué aussi à ces changements. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les gens trouvent normal qu'on demande son avis aux assemblées générales, c'est parce qu'il y a eu ces combats des années 80. Donc, voilà, il y avait cette recherche, mais pas simplement. C'est-à-dire que l'autogestion des luttes, c'est une dynamique importante, mais il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire que c'est la question de l'élaboration de contenus, qui peuvent être des contenus alternatifs, qui vont dans un autre sens que celui des directions d'entreprise, qui posent la question de l'utilité sociale, qui posent la question de l'organisation du travail, qui posent la question de la hiérarchie. Bref, toutes sortes d'exigences qui sont qualitatives et qui préfigurent en fait une société alternative avec d'autres déterminants que ce qui domine aujourd'hui. C'était tout ça. Donc c'était tout ça une dynamique de contre-pouvoir. Et si en cherchant justement à donner une certaine cohérence, on peut dire, à la stratégie que nous pouvions dessiner devant nous, il y avait donc cette idée qu'il y a dynamique partant de la base. Il peut y avoir des contre-pouvoirs. Il peut y avoir dans des cas important de mobilisation sociale, des contre-pouvoirs qui se coordonnent, qui convergent et qui donc peuvent constituer des éléments, des moments de contre-pouvoirs, classe contre classe en simplifiant un peu, mais enfin bon, ça dépasse un peu cette notion-là, mais enfin, c'est un peu quand même ça, enfin, autour en tout cas d'un noyau. Et puis, cette idée que c'est aussi comme ça que peut naître certaines situations historiques où il y a un double pouvoir. C'est-à-dire que réellement, cette autogestion des luttes, mais à travers toute cette dynamique, peut se confronter au pouvoir réellement existant, institutionnel, étatique, bureaucratique, patronaux, etc., etc. Donc c'était cette idée d'aller vers une dualité et donc de construire en fait les germes de la société future dans la société actuelle. D'y construire les germes et qu'à un moment, ces germes puissent éclore et se confronter, puis écraser la vieille société, la société capitaliste. C'était tout ça la stratégie que nous cherchions à élaborer, que nous avons donc en partie couché sur le papier à travers le projet communiste libertaire. Et il faut dire que ça nous inspirait dans nos luttes. C'est-à-dire que le fait d'avoir une stratégie de ce type, quand je dis d'avoir une stratégie, c'est pas simplement un truc qui est écrit sur du papier. Ça veut dire que quand on était ensemble, on en parlait, on en reparlait, etc. etc. Et donc, il se trouve que quelques mois pratiquement après le congrès qui a adopté le projet communiste libertaire, il y a eu les mouvements, notamment chez les cheminots, puis dans d'autres secteurs, où s'est posé le problème des coordinations. Et ce sont des camarades de l'UTCL qui ont été parmi, pas les seuls évidemment, mais en tant que syndicaliste, parmi les bouts de feu, on peut dire, de cette expérience d'autogestion. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils étaient nourris par leur participation à l'Union des travailleurs communistes libertaires, qu'ils étaient d'autant plus mordants, d'autant plus habités par des perspectives qui leur permettaient de formuler des propositions qui se sont concrétisées dans les grèves, notamment de la SNCF, et puis d'autres qui les ont accompagnés.
Ce qui est important aussi de rappeler sur ces grèves-là, hein, avec coordination, c'est que les militants de l'UTCL, t'as raison de citer d'autres, hein, parce que par exemple, pour le coup, toute une partie de frange des militants de la LCR sont partie prenante totalement de la dimension des coordinations, notamment par exemple dans la santé, hein, les coordinations infirmières. Hein, beaucoup de militants de la LCR sont très présents dans ce secteur-là, qui est un secteur où il y a des militants du TCL dans la santé, mais c'est quand même pas votre secteur de prédilection. Et néanmoins, par contre, la même chose côté cheminot, hein, des camarades comme, je pense, Michel Desmar, hein, il est Christian Mailleux, Henri Cellier, sont des militants qui sont en situation de responsabilité, en fait, à la CFDT et qui mettent l'outil syndical à disposition des grèves, y compris contre la direction confédérale CFDT, hein, qui dénonce les grèves par coordination, qui dit que le mot n'est pas employé à l'époque, mais qu'on aurait pu dire que c'était du populisme ou des choses comme ça, etc. Bon, donc ce choix de la démocratie, là, on sent, hein, qu'effectivement, il y a une ébullition et que les militants jouent à la fois la position syndicale qu'elle a leur, mais pas pour défendre l'appareil, mais pour utiliser l'outil, en fait, et mettre l'outil à disposition des luttes, là, qui émergent, qui sont en pleine ébullition. Et en fait, c'est d'une certaine manière la même démarche que vous avez quand il faut créer les Suds.
Complètement.
À la Poste, il faut créer Sud PTT, et puis les camarades, ensuite, créons Sud Rail, peut-être un petit peu.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai souvenir de discussions. Sud PTT, ça se crée en 1988. Et j'ai souvenir de discussions dans nos... y compris chez Martine Dogniaux, puisque le secteur PTT se réunissait chez Martine, qui était par ailleurs la secrétaire du syndicat des postaux de Paris, de la CFDT. Et donc, je me rappelle qu'on avait discuté avec des camarades, y compris d'autres secteurs, d'expériences qui comme tu l'as dit, ont préexisté à Sud. Il y avait le SNPIT, si je ne dis pas de bêtises, à Air Inter, avec la secrétaire était une camarade de l'UTCL. Il y avait d'autres expériences aussi. On a réfléchi sur ces expériences-là avant même la création de Sud, en se posant des problèmes, et pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça renvoie à des questions de stratégie et d'identité. C'est pas simple, par exemple, de quitter une organisation et d'en construire une autre. Ça pose tout un tas de problèmes. Et ça a posé tout un tas de problèmes à d'autres organisations. Et on pourra parler des problèmes que ça a posé à nos camarades qui ont construit les Sud avec nous, qui sont de la Ligue communiste. Donc, c'était pas simple. Mais nous étions préparés par ces débats, en fait, à l'intérieur de l'UTCL, précédant la constitution de Sud. Si bien que nos camarades ont joué très vite cette carte. Nous n'avions pas de tabou là-dessus. C'est-à-dire que pour nous, on avait élaboré, y compris notre propre charte, je dirais, identitaire. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'était les collectifs de lutte. C'était de préserver, non point l'unité des structures, des sigles, mais l'unité des collectifs de lutte. Et qu'à partir du moment où un collectif de lutte, pour le maintenir, il fallait quitter une structure et en former une autre avec un autre sigle, c'était pas un problème, c'était une difficulté, mais c'était pas un problème idéologique ou stratégique. Donc ça, c'est très important, parce que du coup, on était armés, en quelque sorte, quand on s'est trouvé confrontés. Alors, bien sûr, si on y pensait, c'est parce que les tensions étaient de plus en plus importantes à l'intérieur de la CFDT, notamment. Hein. Mais enfin, en tout cas, on était armés stratégiquement, et donc très très vite, on a basculé. Je rappelle que le premier syndicat, c'est le syndicat des Postaux de Paris, le premier syndicat qui se constitue en Sud, et puis ensuite d'autres, etc. Il y a eu des débats très importants avec nos camarades de la Ligue. C'est-à-dire que on allait à l'encontre d'un axe stratégique et idéologique important pour les trotskistes, la fameuse centrale unique des travailleurs. Alors, quand on est pour la centrale unique des travailleurs, il est extrêmement difficile de former encore une autre centrale, en plus de celle qui existe. Donc, il y avait là une grosse divergence, et les camarades de la Ligue communiste révolutionnaire qui partageaient nos combats dans les mêmes syndicats, etc., ont marché avec nous. Mais contre les positions de leur organisation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Il y a eu un détournement journalistique. Ensuite, on pouvait lire, par exemple, que les Sud étaient créés à l'initiative de la Ligue communiste. Pas du tout. Des militants de la Ligue communiste y ont participé d'une manière décisive, c'est vrai, sur le terrain. Mais au niveau de l'organisation, ils étaient désavoués par leur direction. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Et puis, quelques années après, quand il y aura, même pas mal d'années après, la grève 95, la grève de la SNCF, puis la création de Sudrail. La création de Sudrail, c'est important, parce que ça commence à profiler une confédération. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est des secteurs importants, un autre grand secteur important qui se détache, vraiment se dessine l'idée de former un autre ensemble national, etc. Donc ça pose problème. Et je me rappelle d'une réunion à laquelle nous avions été convoqués par la direction de la Ligue communiste. Il y avait là quelques-uns des dirigeants du secteur ouvrier, ou je ne sais pas comment il s'appelait, de la Ligue communiste, qui nous avaient convoqués. Il y avait Henri Cellier, il y avait Michel Desmar, il y avait Renard, il y avait moi, il y avait Martine Dogneau, je ne sais plus qui encore, qu'on était là, convoqués en quelque sorte par la direction de la Ligue. Souvenons-nous, les gens que nous avions en face de nous étaient tout de même persuadés d'être à la tête du futur parti révolutionnaire, d'être en tout cas l'embryon du futur parti révolutionnaire, et donc de détenir la vérité en quelque sorte. Et nous étions des emmerdeurs qui agissions et entraînions en plus, on pervertissait en quelque sorte leurs petits camarades en les entraînant dans ces aventures. Et je vois toujours les dirigeants de la Ligue communiste nous haranguant, nous disant que nous contribuions à la division du monde ouvrier. Ça nous faisait rire parce que, évidemment, ces camarades pensaient qu'ils étaient la direction potentielle de la révolution future. Mais nous, on les voyait comme des copains comme d'autres, quoi. On les voyait en tête à tête, à égalité, et on ne comprenait pas pourquoi ces gentils garçons voulaient absolument décider pour nous de ce que nous allions faire. Et donc, c'était presque drôle, c'était presque pitoyable aussi, en quelque sorte. D'autant plus pitoyable que les mêmes camarades qui, à l'époque, brandissaient leurs doigts accusateurs en notre direction, quelques années après, ont finalement suivi le même chemin et ont été très contents de l'existence des Suds, venaient aux réunions des Suds, adhéraient quelquefois à des Suds, et donc c'est une véritable défaite. Mais cette défaite est aussi intéressante pour autre chose. Ça montre qu'il y a une relation de fétichisation à l'unité, à la structure, qui est une vision erronée par rapport à ce qui est nécessaire dans l'action sociale et qui se pense en termes de dynamique et pas en termes de structure essentiellement. En tout cas, bien sûr, il y a toujours une dialectique entre les deux, mais il faut savoir quel est le pôle qui domine.
Écoute, je pense que c'est assez intéressant parce que ça va nous amener peut-être sur la dernière partie un petit peu de notre entretien. Donc si il y a des histoires de dynamique, s'il y a des structures qu'on peut remettre en question, il y a aussi quand même un autre débat qui est quand même lié à la trajectoire de l'UTCL, qui est celui de la convergence et justement de la synthèse possible entre les conceptions justement marxistes et les conceptions libertaires. Donc c'est un débat qui nous intéresse évidemment à contre-temps. Précisons d'abord que l'UTCL, c'est pas une organisation qui s'est éteinte brutalement ou définitivement en 1991, c'est quand même une organisation qui a des suites organisationnelles, hein, alternative libertaire d'abord, qui se crée dans la suite avec la fusion avec une structure dont on n'a pas parlé, mais pas si petite d'ailleurs, mais qui s'appelait le collectif Jeunes Libertaires, qui était en fait les fameux jeunes de 83, 84, 85 et l'UTCL qui va former Alternative Libertaire en 91. Et c'est une organisation qui va exister jusqu'en 2019, donc pareil, une très belle longévité, pour fusionner en 2019 avec la coordination des groupes anarchistes, la CGA, et fonder donc l'Union des Communistes Libertaires, l'UCL, qui existe encore aujourd'hui. Je dis ça hein, parce qu'il y a quand même une filiation directe, hein, c'est important. Donc, ce qui est intéressant aussi dans la conception de... Et qu'était celle de l'UTCL, puis celle de l'AL, c'était une forme de conception de il y avait trois piliers stratégiques, on va dire. Il y avait la construction d'un courant communiste libertaire en tant que tel, et d'une organisation spécifique communiste libertaire. La construction de ce que vous appelez à l'époque un front de l'égalité et de la solidarité, c'est-à-dire, donc, en gros, des organisations du mouvement social acquises à des dynamiques de rupture, on va dire, hein, ou en tout cas des dynamiques de lutte. Et un troisième pilier qui était celui de l'existence, je cite de mémoire, hein, d'un vaste mouvement anticapitaliste et autogestionnaire dans lequel le courant communiste libertaire s'intégrerait sans disparaître. Je crois que c'était à peu près ça les mots. Ça, c'est un troisième pilier qui a un peu disparu aujourd'hui du patrimoine, enfin, en tout cas, qui apparaît plus dans ce que dit l'UCL. Mais par contre, c'était un pilier qui était intéressant dans le sens où il questionnait. Et là aussi, on voit cette démarche d'ouverture qui était aussi celle de l'UTCL, qui était de dire, de ne pas se considérer forcément non plus comme un courant figé et terminé, on va dire, hein, d'une certaine manière, mais d'être peut-être en reprenant, sans tout à fait en accepter tous les termes, hein, parce que d'une certaine manière, l'UTCL continuait à s'inscrire dans une histoire plus longue, qui était celle en fait de l'anarchisme ouvrier, si on veut le définir comme ça. Mais en tout cas, les préoccupations qui étaient celles d'un militant important, Daniel Guérin, effectivement, qui lui réfléchissait une synthèse communisme libertaire. Il parlait de points de ralliement vers l'avenir. Toi, c'est quelque chose auquel tu as toi-même réfléchi, hein, tu as écrit un article pour le hors-série d'Alternative Libertaire au moment de la... donc pour anniversaire de la mort de Daniel Guérin, je crois, en 1998, qui a été la base d'un autre article dans Contre-temps en 2003. C'est intéressant cette histoire de synthèse, de jonction, en tout cas de confrontation peut-être qui peut être difficile, avec des éléments de Kronstadt et un exemple non pas juste historique qui flotte, hein, mais bien pour poser des questions stratégiques, de confrontation, mais aussi de... Finalement, il y a trois options possibles sur la question de cette histoire de synthèse entre marxisme et anarchisme. Il y a le refus, pur et simple. Hein. Là, on a les militants de la FA historiques qui vont dire « Non, nous n'avons rien à faire avec les marxistes, même des fois avec Marx lui-même, tout ça ne nous intéresse pas du tout. » La conception de la solidarité entre les deux courants, c'est un peu la thèse que défendaient Olivier Besancenot et Michael Lowy dans le petit livre qu'ils avaient fait sur « Nos étoiles rouges et noires, affinités révolutionnaires entre marxistes et libertaires ». Et puis, là, pour le coup, ce que défendait un peu Daniel Guérin, c'est-à-dire une synthèse qui irait vers un courant révolutionnaire nouveau. Hein, qui serait pas seulement l'addition de l'anarchisme, l'addition du marxisme, mais bien en vrai quelque chose d'autre. Donc moi, c'était un petit peu là-dessus que je voulais t'interroger pour finir. C'est toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée de synthèse entre anarchisme et marxisme? Si on réfléchit aujourd'hui à cette synthèse, quels en seraient les termes ou pas? Et puis surtout, quels acteurs de cette synthèse?
Ce que disait Daniel Guérin, c'était que cette synthèse, il la désirait, qu'il y contribuait à sa façon, mais qu'en même temps, il n'en avait pas réussi à dessiner tous les contours et qu'elle se concrétiserait, si elle se concrétise, dans l'avenir. C'est un point de ralliement qui est encore, en quelque sorte, inscrit dans le futur. Et je pense que nous en sommes encore là, mais peut-être plus proche qu'à d'autres temps, pour ce qui est en tout cas d'une partie des militants issus du marxisme. Mais enfin, on en est encore dans cette phase de recherche. Je pense qu'il faut quand même en avoir conscience, c'est-à-dire qu'il faut être modeste par rapport à ça. En même temps, on peut dire que quelque part, il y a déjà eu des moments historiques où les termes commençaient à se poser. Je veux dire que y compris dans les combats homériques entre Marx et Bakounine, il y avait en quelque sorte déjà des éléments de la synthèse qui se posaient. Quand on parle de synthèse, on parle de synthèse au sens dialectique, au sens quasi hegelien du terme, c'est-à-dire un dépassement. Hein. C'est pas simplement, effectivement, un mélange. Je sais pas, on met pas le marxisme et l'anarchisme dans un shaker.
50% de marxisme.
Voilà, et puis on agite, voilà. et puis ça donne un cocktail. Pourquoi pas d'ailleurs, mais je ne suis pas certain que ça puisse suffire. Donc il y a aussi l'idée de dépasser, en tout cas, une part de ce que sont aujourd'hui les uns, de ce que sont les autres. Et d'ailleurs, personnellement, je ne me suis jamais réclamé du marxisme. Bien qu'ayant été un de ceux qui, dans notre petit groupuscule, ait plus martyrisé ses camarades sur la question de prendre en compte la dialectique. Mais je pense qu'il faut cesser complètement d'arrêter, en fait, en quelque sorte, le cours de la pensée à telle ou telle époque et à tel ou tel penseur. Marx et Bakounine, c'était une époque, donc c'est très important. Je pense qu'il faut même y revenir. C'est très important d'avoir toute cette richesse de pensée antérieure qui nous intéresse. Mais c'est aussi intéressant justement de voir en quoi il y avait des étincelles. Et si on re-regardait ces étincelles aujourd'hui, ces points de friction avec une certaine objectivité, on se rendrait compte, par exemple, que dans les débats entre Bakounine et Marx, le plus matérialiste n'est pas nécessairement Marx. Que la critique d'une conception qui semblait dire que le socialisme est en quelque sorte inscrit, pratiquement préécrit, inscrit dans le développement des forces productives et qu'en fait, il s'agissait d'accélérer l'histoire pour atteindre enfin le socialisme. Bakounine critiquait cela chez Marx et il le taxait d'idéaliste. Et il n'avait pas tort. Je pense que l'un et l'autre aussi avaient, par contre, une conception, l'un et l'autre, assez dialectique des choses, et qui comprenaient en quoi le mouvement fait bouger les lignes. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense qu'effectivement, autant il est important de nourrir notre pensée des apports de Karl Marx, de Bakounine, etc., autant il faut penser aujourd'hui.
Sur ces mots et ce constat, même si c'est aussi un constat riche de réflexions à avoir et sans doute peut-être encore à venir, on va conclure cette émission. Merci à toutes et tous de l'avoir passé avec nous. C'était donc C'est quoi le plan ? Une émission de Contretemps sur la plateforme Spectre. Et Contretemps comme Spectre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment récemment sur Blue Sky. Merci et à bientôt. Spectre.